Midi à Paris, 11h, temps universel. C'est RFI Midi qui commence. Nous sommes ensemble pour 2h30 pour un tour complet de l'actualité internationale avec nos correspondants, nos invités, toute l'équipe de Radio France Internationale qui continue de se mobiliser pour parler et vous expliquer la guerre au Moyen-Orient. 7e jour d'échange de frappes entre l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre. Le Liban continue lui aussi de glisser vers la guerre avec ses attaques aériennes d'Israël dans le sud du pays et sur Beyrouth.
Il y a eu des bombardements tout proche. On a eu très peur. Moi, j'ai très peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de ma famille. Et j'ai peur de perdre ma maison. On y a tous nos souvenirs.
Les pays du Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis en tête, qui sont eux aussi pris en étau dans ce conflit, ce qui menace leurs économies, des infrastructures pétro-gazières attaquées, un hub pour le transport aérien gelé. Est-ce que ce modèle, il est mis en péril? Comment ces États peuvent défendre leurs intérêts? On en parlera avec notre invité, l'économiste Michel Ruimi. Ce sera à midi 20 ans universel. En Espagne, la justice s'empare enfin de la problématique du racisme dans le secteur de l'immobilier.
Les immigrés doivent s'intégrer. Ok, mais comment ils font si tu ne les acceptes pas? Ils ont besoin d'un logement. Une maison, ce n'est pas juste quatre murs. C'est là où tu construis ta vie. Ce qui fait que tout le monde ressent le besoin de stabilité.
Dans le nord-est du pays, en Catalogne, Hamid Mata, que vous venez d'entendre, ce ressortissant marocain, il a obtenu la condamnation d'une agence immobilière à payer une amende pour discrimination raciale alors qu'il cherchait un logement. Son témoignage et le récit de son combat, ça sera dans une demi-heure. Deux semaines que les Guinéens n'ont pas aperçu leur président, Mamadi Doumbouya, devait rentrer en fin de matinée à Conakry. Ça sera la une d'Afrique Midi, présentée par Lisa Vie à 12h30 TU. Dans le journal d'Haïti et des Amériques, dans deux heures, on sera en Colombie, où se tiennent des élections législatives dimanche. Reportage de notre correspondante à Medellin. Et puis, ça fait 4 ans qu'il se prépare pour atteindre le sommet de l'Olympe. Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina commencent ce soir en Italie avec la cérémonie d'ouverture. Un événement qui aura une saveur particulière en vue du boycott de plusieurs délégations, dont celle de l'Ukraine, pour marquer le retour des athlètes russes sous leur bannière et leur hymne. Nous appellerons notre envoyé spécial, Christophe Diremzian. Vous avez le programme, bienvenue. RFI Midi commence avec votre journal, Karine Bellicha. Bonjour.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Israël et les États-Unis continuent donc de frapper l'Iran.
Côté américain, Washington entend poursuivre ses bombardements aériens, mais l'éventualité d'un déploiement terrestre est désormais écartée par Donald Trump, jugeant que ce serait une perte de temps. À Téhéran, le régime de la République islamique ne rompt pas et a organisé une nouvelle manifestation de soutien aujourd'hui. Notre correspondant, Siavosh Ghazi, est présent dans ce rassemblement.
C'est la première fois depuis le début des opérations israéliennes et américaines, commencées samedi avec la frappe de la résidence de l'Ayatollah Khamenei qui a été tué, que les fidèles se rassemblent dans le centre de Téhéran pour la prière du vendredi. Et ensuite, à l'appel du pouvoir, ils ont manifesté dans les rues de la capitale, dans le centre de la capitale, pour dénoncer les frappes américaines et israéliennes. L'imam de prière, qui prononçait le discours politique de la prière, a affirmé que l'Iran devait se battre jusqu'au bout, jusqu'à la destruction de l'État d'Israël. d'Israël et l'expulsion des États-Unis de la région. Ces propos ont été accueillis par les fidèles, par les traditionnels slogans « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël ». Ensuite, les fidèles ont manifesté dans les rues de la capitale. Ce matin, il y a eu des frappes très très dures contre le centre de Téhéran, les quartiers du centre de Téhéran. Dans la partie ouest de ces frappes, il y a deux ou trois bases militaires, mais ailleurs, c'est plutôt des zones résidentielles, même s'il y a des commissariats ou des bâtiments officiels, des bâtiments publics qui ont été visés, mais à chaque fois, aux alentours, il y a des immeubles résidentiels qui ont été également touchés.
Siavosh Ghazi à Téhéran, manifestation des soutiens du régime et nouvelles représailles de Téhéran. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du pouvoir, ont annoncé une attaque combinée de missiles et de drones sur Israël, visant Tel Aviv. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont aussi été touchés, comme le Bahreïn et le Koweït. Dernier pays en date visé par une attaque de drones iraniens, l'Azerbaïdjan. Bakou a décidé d'évacuer son personnel diplomatique de Téhéran.
Le Liban continue aussi de subir les bombardements israéliens.
De nouvelles frappes contre le Hezbollah pro-iranien dans la banlieue sud de Beyrouth, dans des quartiers massivement désertés par leurs habitants depuis jeudi, et dans la ville de Saïda, principale agglomération du sud du pays, bastion de la milice chiite, alors que l'État hébreu prend le contrôle de nouvelles positions dans la zone et veut y établir une zone tampon. Le spectre d'une nouvelle occupation israélienne inquiète notamment cette Libanaise, Lina Hamdan, engagée en politique comme indépendante.
Les gens ont peur que cette incursion entraîne une occupation terrestre, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans les villages. Déjà, nous avons une trentaine de villages qui sont totalement détruits, ils sont à terre. Et on pense que cette incursion, cette occupation, si vous voulez, va s'étendre pour occuper tout le sud du Litanie. Et là, c'est grave parce que les gens ne pourront plus retourner chez eux dans les villages. Déjà, il y a eu des appels de la part de l'armée d'occupation israélienne appelant les gens à quitter les villages. Et donc, nous avons la première grande ville après le Litanie, c'est Saïda. Elle est pleine et il y a quelques 200 ou 300 000 personnes dans cette petite ville. Et puis à Beyrouth aussi. Et les abris, les centres et toutes les écoles publiques qui ont été ouvertes pour accueillir tous ces déplacés. Il n'y a plus de place dans ces centres.
Lina Hamdan, jointe au Liban par Lina Al-Olkinoura.
Le ministère libanais de la Santé a annoncé hier soir la mort de 123 personnes et de près de 700 blessés depuis le début de l'offensive israélienne, Karine.
Dans cette guerre régionale, Téhéran fait état de 926 morts. 13 personnes ont aussi été tuées dans les pays du Golfe. En Israël, le bilan s'établit à 10 morts. Il s'agit désormais d'une crise humanitaire majeure dans toute la région, confirme l'agence de l'ONU pour les réfugiés.
Une guerre régionale aux répercussions mondiales.
À Londres, un Iranien et trois Irano-Britanniques ont été arrêtés par la police antiterroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir surveillé des personnes et des lieux liés à la communauté juive de la capitale pour le compte de Téhéran.
En France, les membres de la diaspora iranienne suivent aussi de près la situation dans leur pays.
Notre journaliste Yoram Meloul a rencontré Rana à Marseille, dans le sud de la France. Elle organise des manifestations contre le régime de Téhéran. De la toute petite communauté iranienne, moins de 200 personnes, selon elle, présentes à Marseille. Rana suit de près les événements, entre grande angoisse et un peu d'espoir.
Rana, la trentaine, espère que la guerre va permettre de faire tomber définitivement le régime.
Cette guerre qui est arrivée, je pense qu'on l'a demandé un peu. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'une guerre, c'est pas dangereux. C'est parce qu'on est arrivé dans un impasse, qu'on n'avait pas d'autres solutions pour dire comment on va réussir à faire tomber Khamenei.
Elle a fêté l'élimination de l'ancien guide suprême de la République islamique qu'elle tient pour responsable des dizaines de milliers de morts causées par la répression des manifestations de janvier dernier.
C'était comme un truc impossible qu'on pensait jamais être vivante et être en témoin. Bien sûr, on a fait la fête, mais c'est vrai qu'après 4e, 5e jour des attaques, on est inquiète quand même.
Depuis le début de la guerre, pratiquement impossible de joindre ses proches faute d'accès à Internet en Iran. Son père est toujours à Téhéran, il refuse de quitter la ville.
Des fois, il capte, mais c'est vraiment très rarement. Il essaye plusieurs VPN. comme les nombres d'attaques sont en train d'augmenter, on ne sait pas si ça va aller dans 2 heures ou 3 heures. Et que surtout, comme on n'a pas de contact, c'est très compliqué.
Rana manifeste régulièrement contre le régime depuis janvier. Pour elle, pas question de retourner en Iran tant que celui-ci est en place. Yoram Melloul, Marseille. RFI.
Et la poursuite de cette guerre en Iran, elle va impacter l'Ukraine.
Les États-Unis ne seront pas en mesure de fournir suffisamment de missiles en même temps dans le Golfe, à l'Ukraine et à sa propre armée. Mise en garde du commissaire européen à la défense, il insiste sur la nécessité pour les 27 d'augmenter leur production de systèmes de défense aérienne et de missiles antibalistiques pour faire face.
Et le ton d'ailleurs qui monte entre l'Ukraine et la Hongrie.
Les relations entre les deux pays étaient déjà exécrables. Aujourd'hui, 7 employés de banques ukrainiens ont été arrêtés à Budapest pour blanchiment d'argent. Kiev dénonce une prise d'otage. Le premier ministre hongrois, proche du Kremlin, bloque depuis des mois un prêt de l'Union européenne de 90 milliards d'euros à Kiev. Viktor Orban dit qu'il utilisera tous les moyens pour obtenir de l'Ukraine le rétablissement des livraisons de pétrole russe coupées depuis janvier après une frappe de Moscou sur l'oléoduc desservant la Hongrie.
Dans le reste de l'actualité, Karine Bellicha, l'ex-mania des médias pro-démocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, ne fera pas appel de sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale.
Ce sont ses avocats qui lui ont sont plus d'explications.
Living everything Bâillonnez-moi cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Débrancher la radio. Oh nom de Dieu, mais il a perdu la tête.
Mango. mama jambi rongo.
Mango.
Encore moins dans les pages. Et dans 1000 ans on te dira ainsi par les Zarathoustra.
Babylon shit.